Alors, ma fonction à l'Institut, c'est coordonnatrice à la recherche et à l'innovation. Puis l'innovation inclut le transfert des connaissances. Peut-être le seul lien que j'ajouterais, c'est qu'il y a beaucoup de connaissances scientifiques issues de la recherche. Donc, peut-être c'est venu de là, bien que les connaissances scientifiques ne dérivent pas seulement de la recherche.
Marie-Claire, en tant que spécialiste du transfert des connaissances en santé publique et d'un point de vue extérieur à la santé environnementale, qu'est-ce qui vous frappe dans la manière de réaliser le transfert des connaissances dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des généralités que vous pouvez tirer à partir des exemples du numéro?
Tout à fait. Premièrement, je dois dire que j'ai été très favorablement impressionnée par la qualité, des pratiques de transfert des connaissances que j'ai pu constater, à travers les différents articles du bulletin. Il y a une grande diversité de stratégies, hein, mais en plus, je trouve que les conditions gagnantes du transfert de connaissances sont bien traduites, bien représentées, dans les différents articles. Alors, entre autres, je le mentionnais tout à l'heure, des approches plus participatives, une ouverture aux parties prenantes, aux partenaires impliqués dans les différents secteurs d'activité ou même à l'intérieur des organisations elles-mêmes, par exemple des gens en communication puis des gens plus au niveau des thématiques scientifiques. Alors ça m'a beaucoup impressionnée, je le répète, parce que c'est extrêmement positif comme façon de positionner son action. Et ça traduit une autre chose que je trouve vraiment essentielle pour la santé publique. Ça traduit aussi une décentration de notre propre point de vue. Parce qu'en santé publique, on nous reproche souvent d'être des ayatollahs de la santé, de prêcher, d'être prescriptifs. Et quand on travaille avec des méthodes ou des approches participatives, forcément, on l'est moins parce qu'il faut se décentrer de son point de vue pour essayer de le voir du point de vue des autres acteurs en comprenant que la santé publique peut pas être une priorité pour tout le monde. Alors, pour moi, ça, c'est comme une des choses qui m'a le plus frappée, que je trouve très positive. Ensuite, la préoccupation très présente dans plusieurs articles, sinon tous, pour l'évaluation. Et c'est sûr que je suis une chercheure de formation. Donc, pour moi, l'évaluation, c'est une façon de travailler qui permet toujours de voir finalement de façon empirique si on a les résultats escomptés. Si on n'évalue pas, on peut penser qu'on rejoint du monde, puis finalement, on ne les rejoint pas. On peut penser que oui, ça marche notre affaire, on va influencer tel ou tel comportement, telle attitude, on va vérifier, puis oups, on est passé à côté, puis c'est pas les résultats qu'on escomptait. Et des fois même, il y a des effets pervers. Si on va pas voir, on peut pas le savoir. Donc, moi, je pense que c'est une question d'imputabilité professionnelle et organisationnelle que d'aller vérifier comment les usagers ou les publics ou quel que soit le moyen qu'on utilise, est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Alors, ça aussi, puis une troisième chose que je mentionnerai, une troisième caractéristique que j'ai trouvée très plaisante là, à lire les articles, c'est l'ouverture aux innovations technologiques. Parce que je ne sais pas si c'est plus en santé environnementale qu'ailleurs, je ne sais pas, mais je trouve qu'il y a là un potentiel encore inexploré pour la santé publique, parce que ce sont des technologies, tout ce qui est lié à l'informatique, là, c'est très puissant parce qu'on peut avoir un contact personnalisé, même à la limite, avec les usagers, aller chercher leur feedback spécifique, leur donner un portrait ou un diagnostic spécifique, comme on voit dans un article sur la qualité de l'air, quand les gens peuvent faire le diagnostic pour leur propre domicile. C'est très puissant parce que ça rejoint éventuellement chaque utilisateur, donc ça a plus de probabilité d'influencer son comportement. C'est ludique, c'est le fun. Il n'y a pas grand monde maintenant qui aime pas jouer avec des outils comme ça. Donc, c'est une façon, encore une fois, moins prescriptive, moins normative de sensibiliser les gens. Et finalement, moi, je pense que ça peut être plus économique parce que les approches participatives, oui, c'est bien puissant aussi, puis ça donne d'excellents résultats, mais c'est très énergivore. Donc, si on est capable d'interagir avec des moyens comme ceux-là, on peut rejoindre des grandes quantités de gens à moindre coût. Donc, ça vaut la peine d'explorer. Fait que vous voyez, c'est des, disons, j'ai des feedbacks extrêmement positifs, à donner sur les pratiques que j'ai découvertes à travers les articles que j'ai lus.
Les exemples de stratégies de transfert de connaissances présentées dans le numéro spécial du BIS mettent vraiment en lumière l'importance d'être en interaction avec les publics ciblés par le transfert. Est-ce que cette interactivité-là est une condition obligatoire pour réaliser un véritable transfert de connaissances?
Je sais que c'est pas agréable de se faire répondre, ça dépend, mais je vais quand même répondre, ça dépend, parce que moi je pense que ça dépend des objectifs qu'on vise. Alors si on vise à modifier les connaissances de quelqu'un, à améliorer ses connaissances, j'ai lu un article là, dans le bulletin qui disait que si je me souviens bien que 20% des cataractes étaient évitables, hein, par une question d'exposition au soleil. J'ai pas besoin d'une approche interactive pour apprendre ça, puis retenir ça, puis que ça influence peut-être éventuellement mon comportement. Cependant, dans la plupart des situations, les changements qu'on a à faire sont beaucoup plus complexes, plus profonds. Donc, le simplement lire sur un site ou dans un bulletin que ce qu'il faut faire, ça ne suffira pas. Et ça va prendre des interactions et des interventions donc plus intensives, plus continues dans le temps. Et si on introduit là-dedans du coaching, là, de l'accompagnement, du mentorat pour aider les gens à intégrer ça dans leur pratique, moi, je pense que c'est une condition de succès très, très importante et même essentielle dans un dossier complexe. Parce qu'on peut pas penser, influencer quoi que ce soit si on ne tient pas compte des besoins, des attentes, des utilisateurs qu'on vise, de leurs limites. Leur contexte d'action comporte toujours aussi des limites. Et après ça, on va mesurer si on a atteint nos résultats. Donc, si on n'a pas d'interaction et d'approche participative avec les publics qu'on vise, mais ça devient beaucoup plus difficile de les rejoindre, parce de les mobiliser, puis d'avoir de l'impact finalement, ultimement.
Tu as lu, Marie-Claire, l'ensemble des articles qui composent notre numéro thématique du BIS. Pour toi, le transfert des connaissances, bon, pour bon nombre de personnes, le transfert des connaissances, c'est une nouvelle terminologie qui décrit une pratique de longue date, mais menée la plupart du temps de façon intuitive. En quoi une pratique de transfert des connaissances plus structurée pourrait nous aider à nous améliorer?
Ben, il y a plusieurs sous-questions là dans ta question. Premièrement, le terme transfert des connaissances. Moi, je pense qu'il faut qu'on garde des termes simples pour que les gens comprennent. Tout simplement, d'ailleurs, c'est la première règle du transfert des connaissances. Il y a des gens qui disent, surtout aujourd'hui, que ça a une connotation unidirectionnelle. Moi, je ne pense pas. Le transfert des connaissances aujourd'hui, le sens qu'on y accole, c'est vraiment des échanges bidirectionnels. Et comme le terme est simple et facilement compris de tout le monde et qui est celui qui est universellement est le plus utilisé, ben tout simplement, on adopte celui-là. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui utilisent le terme valorisation, le terme mobilisation des connaissances ont tort. C'est une question d'univers culturel, de discipline, etc. Puis dans le fond, si les pratiques se ressemblent, c'est ça qui compte. Pour la question d'est-ce que c'est une pratique intuitive ou structurée, ça dépend de qui on parle, parce que quand moi j'ai été formée, donc j'ai fini mon doctorat au début des années 80, on ne se formait pas au transfert des connaissances, donc on apprenait sur le tas, par essai et erreur, et bon nombre d'entre nous avons donc appris à en faire. Des fois on appelait ça de la vulgarisation scientifique. Alors on a tous appris à travers l'expérience. Ça veut pas dire que c'est pas bon. Mais aujourd'hui, je suis en train de faire une recension de l'offre de formation justement en transfert des connaissances au Québec et au Canada à travers le réseau de recherche en santé des populations. Et j'ai découvert qu'il y avait une offre beaucoup plus substantielle que je pensais même, et entre autres au Québec. Donc maintenant, on l'enseigne dans les universités. Avant, ce n'était pas le cas. Et encore une fois, ce n'est pas mauvais du tout d'avoir appris de façon intuitive, mais pour moi, ce n'est pas la même chose que de dire que c'est structuré. Même quelqu'un qui a appris par lui-même ou par elle-même, par expérience, ressent le besoin à un moment donné de mieux structurer sa pratique pour une question carrément de professionnalisme, de qualité des services qu'ils offrent ou des produits qu'ils développent. Donc, effectivement, on voit présentement une tendance à la structuration des pratiques en vue d'une plus grande qualité et c'est un plus. J'ai travaillé avec deux collaboratrices, Nicole Lemire et Karine Soufès, à développer un guide d'animation de processus de transfert des connaissances pour soutenir le développement des pratiques dans ce domaine-là. Alors, quand on dit un guide, évidemment, c'est pas jamais dans le sens normatif parce que le transfert des connaissances, c'est extrêmement contextuel. Alors, il faut adapter à chaque contexte, à chaque groupe d'acteurs concernés, ce qui fait qu'il n'y a pas de recette facile. Mais il faut quand même à chaque fois faire l'exercice, peut-être aussi au niveau de la structuration, je pourrais parler de démarches planifiées. Je me souviens qu'il y a des auteurs qui en parlent dans le bulletin. Et c'est vraiment important parce que ça ne veut pas dire que c'est pris dans le béton et qu'on ne bougera pas, mais de planifier son action, c'est déjà d'anticiper le genre de visibilité, par exemple, dont je parlais tantôt, ou d'enjeux que ça peut poser sur le plan social, sur le plan organisationnel, sur le plan scientifique. Si on les voit venir, on va mieux se préparer, on va mieux s'équiper, encore une fois. Si c'est un dossier très controversé, on va voir venir ça, on va peut-être plus consulter de groupes d'intérêt avant de sortir le rapport. On va peut-être pas préparer les conférences de presse de la même façon. Donc, moi, je pense que c'est juste mieux travailler que de planifier sa démarche comme il faut et de la réviser, par contre, au fur et à mesure. Et encore une fois, les données d'évaluation, ça me permet d'introduire quelque chose. Ça aussi, ça fait partie de la structuration que d'incorporer des processus évaluatifs. Puis pour moi, l'évaluation, c'est pas quelque chose qui arrive à la fin. C'est quelque chose qui se fait tout au long du processus de transfert des connaissances. Alors, par exemple, dès le début, on peut évaluer les attentes et les besoins. Le feedback qu'on reçoit nous permet d'ajuster notre démarche. Un peu plus loin, on implante quelque chose, on va aller regarder la mise en œuvre. Est-ce que l'implantation fonctionne ou fonctionne pas? C'est quoi les obstacles, etc.? Donc, ça va nous aider à contourner les obstacles et ainsi de suite. Fait que tout ça, c'est un processus d'évaluation continue au fil du processus de transfert, permet toujours d'ajuster notre action au fur et à mesure plutôt qu'au bout de 2 ans, découvrir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas puis être obligé de recommencer. Et c'est beaucoup plus mobilisateur aussi pour les acteurs. Parce que c'est le fun de savoir, d'avoir du feedback sur ce qu'on fait. Alors, je vous dirais que c'est ça pour moi une démarche structurée. Le plan de transfert de connaissances, ça va ressembler beaucoup à ce qu'on voit dans un des articles du numéro, celui de Madame Terre, là, qui nous explique, je pense qu'eux autres appellent ça à l'INVES, les plans de valorisation des connaissances. C'est essentiellement la capacité d'anticiper le processus, c'est sûr qu'on ne parle pas d'échéancier, là on parle de, par exemple, identifier dès le départ qui peuvent être les parties prenantes de ça. Parce que si ultimement on pense qu'on va livrer des conclusions ou des résultats qui vont servir, par exemple, au milieu scolaire ou au milieu municipal, bien peut-être qu'il faut les sensibiliser dès le départ avant que les résultats sortent et peut-être même en faire des coproducteurs ou des collaborateurs au départ. C'est aussi anticiper au-delà de à qui ça s'adresse, qui ça concerne, quelle stratégie on va utiliser. Parce qu'encore une fois, on peut prendre des stratégies légères, plus unidirectionnelles, comme communiquer de l'information si c'est juste ça qu'on veut que les gens acquièrent des connaissances. Mais si on veut qu'il y ait des changements plus profonds, ben on va opter pour des stratégies plus interactives, on en discutait tout à l'heure, plus intensives, plus continues, peut-être de l'accompagnement. Donc, c'est le choix des publics, le choix des acteurs, le choix des stratégies, ça implique tout ça. Et si on n'y a pas pensé au départ dans un plan de transfert, moi, je pense que tôt ou tard, on arrive à un point où on dit, ah, oh, c'est dommage, j'aurais dû penser à sensibiliser tel public ou j'aurais dû préparer le chemin. Et même au niveau des communications, quand on est une organisation, tôt ou tard, on a à communiquer. Alors, sous quel format on va communiquer nos conclusions, nos résultats? C'est ça. Alors, est-ce que ça va être un rapport de 200 pages que personne va lire ou ça va être un résumé, une synthèse qui fait ressortir, encore une fois, pas nécessairement tous les résultats, mais les résultats qui sont susceptibles d'intéresser le plus tel ou tel public. Tu sais, un public de gestionnaire va plus s'intéresser, par exemple, aux indicateurs de performance. Un public de praticien va s'intéresser à comment améliorer leur pratique et ainsi de suite. Donc, c'est pas trahir les résultats, c'est choisir ce qui peut être le plus utile à chacun. Et pour ça, ben, ça prend des formats qui sont différents. Alors, le même produit, là, le même rapport de recherche, le même contenu scientifique, les mêmes connaissances peuvent être déclinées sous toutes sortes de formes. Et d'y avoir pensé d'avance, c'est, je pense, optimiser l'utilisation des résultats parce que très souvent, on utilise une fraction de nos résultats parce qu'on ne l'a pas anticipé. Puis on ne potentialise pas complètement tout ce qu'on pourrait faire auprès des différents publics. Et le service des communications va être engorgé au bout du compte parce qu'eux autres, ils se font solliciter par toutes les équipes scientifiques. Et d'ailleurs, dans le fonctionnement proposé par l'INVS, dans leur structuration de pratique, il y a un processus transversal de travail où les gens des communications travaillent en étroite collaboration avec les équipes scientifiques pour préparer dès le départ, disons, sous quelle forme, à quel public, de quelle façon ça va être transmis. Pour moi, je pense que c'est gagnant. C'est juste une demande, une démarche réfléchie, dans le fond, pas improvisée au fur et à mesure.
Ça prend des connaissances pour faire du transfert de connaissances, pour mettre en œuvre des plans de transfert de connaissances. Mais j'imagine que ça doit prendre une attitude, des qualités particulières pour les gens qui veulent faire du transfert de connaissances. Est-ce que je me trompe?
Non, vous vous trompez pas parce que c'est sûr qu'on aimerait ça dire que tout le monde, ben, en théorie, oui, tout le monde pourrait faire du transfert des connaissances. Mais ça prend, par exemple, des bonnes habiletés de communication. Il faut être capable de se mettre à la portée, des personnes avec qui on entre en interaction. Si on a un jargon scientifique incompréhensible, ça va même pas être efficace parce que les gens comprendront pas, puis ils vont peut-être même discréditer parce qu'ils comprennent pas. Alors, ça prend effectivement un certain nombre de compétences professionnelles. Certains vont vouloir les acquérir et je pense que ça peut être développé. Par exemple, ici à l'Institut national de santé publique, ils s'offrent des ateliers d'écriture synthétique et persuasive que j'ai suivis moi-même. Et même si j'avais fait de la vulgarisation scientifique par le passé, j'ai trouvé ça extrêmement aidant de suivre cet atelier-là. Surtout la communication persuasive, c'est quelque chose de très différent de la culture scientifique, hein? Alors, parce qu'on persuadait. C'est choisir jusqu'à un certain point, à travers l'ensemble de l'information qu'on a, celles qui sont susceptibles de capter l'attention de l'auditeur ou de la personne qui est en face à face. Ça ne veut pas dire, parce que des fois, les scientifiques ont l'impression que c'est trahir les données scientifiques. Ce n'est pas trahir. C'est adapter le message, c'est pas le dénaturer, c'est pas le changer, mais c'est adapter le message pour qu'il soit convaincant selon à qui on s'adresse. Alors, ce sont toutes des compétences que si les gens veulent, ils peuvent les acquérir, mais en même temps, on ne peut pas forcer quelqu'un à le faire et parfois, il vaut mieux se spécialiser puis embaucher quelqu'un dont c'est le travail de faire ça et qui va prendre, par exemple, un contenu scientifique qui est difficile d'accès, là, difficilement compréhensible et l'adapter dans un autre langage. Parce que le chercheur lui-même, par exemple, ne sera pas intéressé ou n'a pas les habiletés pour le faire. Mais ça, chaque organisation peut choisir comment ils veulent se structurer pour bien faire le travail. Soit que tout le monde essaye de le faire puis apprend à le faire, mais je pense pas nécessairement que ce soit la seule façon de procéder. Alors, sur les compétences, peut-être qu'une question que les gens posent parfois en santé environnementale dans d'autres domaines, c'est quel rôle on peut donner à des courtiers de connaissances, à ce qu'on appelle en anglais des knowledge brokers, là, des relayeurs finalement ou des intermédiaires. Et là encore, il n'y a pas de réponse unique, mais c'est certain que dans certains milieux où les gens, par exemple, ont ni le temps ni l'intérêt pour faire du transfert ou de la vulgarisation scientifique, ça peut être très utile d'avoir des profils de professionnels spécialisés pour faire ça. Parce que, on le sait, des données scientifiques, c'est pas toujours facile à décoder, à interpréter. Et j'ai travaillé, moi, à un moment donné, dans un projet de recherche avec des courtiers et on comparait des groupes où à qui on avait envoyé des articles scientifiques purement et simplement en présumant qu'ils les liraient, qu'ils les comprendraient puis qu'ils les appliqueraient à un groupe qui bénéficiait aussi du soutien, de l'accompagnement d'une courtière de connaissances. Et je dois dire que le rôle de la courtière, la plupart du temps, c'était carrément d'aider les gens à comprendre ce qui était rapporté dans l'article. Parce que si on n'a pas été formé dans une discipline scientifique de comprendre ce que veut dire tel ou tel test statistique, la puissance statistique, est-ce qu'on peut tirer des résultats, des conclusions robustes ou non, est-ce que c'est valide ou non? Ça peut être extrêmement difficile pour des gens qui n'ont pas été formés là-dedans. Donc, je pense que c'est à considérer le rôle d'un courtier. Plusieurs organisations, entre autres les organisations de services de première ligne, au Québec, les centres de santé et services sociaux, assez souvent ont une personne qui joue ce rôle-là dans les deux sens. C'est-à-dire quand les données scientifiques leur sont transmises, il y a quelqu'un qui aide les équipes à les comprendre et à voir qu'est-ce qui peut s'appliquer dans leur pratique, parce que tout n'est pas nécessairement applicable non plus. Inversement, ils peuvent ramener aux chercheurs ou aux scientifiques des questions qui se posent dans la pratique et pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. Alors, soit qu'on engage des processus de recherche pour répondre, essayer de répondre à ces questions-là, ou alors, des fois encore plus simplement, la réponse existe dans la littérature quelque part, mais les praticiens n'ont pas le temps d'aller fouiller la littérature. Donc, le courtier ou la courtière de connaissances va aller fouiller la littérature pour leur rapporter l'information. Fait que c'est des rôles très riches. Parce que ils aident finalement à réconcilier l'univers scientifique avec l'univers de la pratique, avec l'univers de la gestion aussi. Les préoccupations de la gestion sont légitimes. Il faut qu'on puisse rendre des services qui sont de qualité, qui sont performants. Mais toute organisation n'a pas les ressources pour faire ça parce que ça coûte cher, c'est énergivore et c'est coûteux. Alors, chaque organisation doit juger si c'est quelque chose qui va vraiment venir soutenir l'amélioration des pratiques et des services, puis que ça vaut la peine de faire cet investissement-là. Là, j'oserais pas me prononcer là-dessus parce que c'est des décisions qui reviennent aux organisations.
Quels sont, selon vous, les principaux défis et enjeux du transfert de connaissances en santé environnementale ou plus largement, si vous préférez, pour la santé publique?
En fait, les défis, disons que j'ai introduit un peu, disons le défi, en tout cas sur le plan social, c'est vraiment de garder l'équilibre entre des dossiers complexes sur le plan scientifique et la demande sociale qui est de rendre ça, de rendre l'information disponible sous la forme la plus simple possible. Mais parfois, l'information complexe, c'est difficile de la rendre simple et la seule solution, comme je disais, c'est la transparence. Donc ça, c'est, disons, l'enjeu, je dirais, sur le plan social. Maintenant, sur le plan organisationnel, pour le transfert des connaissances, je dirais que on en est à un point tournant parce que je le mentionnais au début de notre entrevue, beaucoup de gens ont appris par l'expérience et de façon individuelle à en faire. Mais là, si les organisations veulent être performantes sur le plan du transfert des connaissances, les organisations ont à porter ce rôle-là ou cette fonction-là en soutenant leurs professionnels, en leur donnant les moyens de le faire bien puis de le faire mieux. Ça demande des ressources puis ça demande aussi une structuration des pratiques de transfert. Puis ce que je veux dire par la structuration des pratiques de transfert, maintenant, on dispose de cadres conceptuels puis de cadres de référence pour en faire. On dispose d'outils. On dispose aussi de formation, je le mentionnais aussi tout à l'heure. Alors, je pense qu'il y a une responsabilité organisationnelle maintenant d'équiper les professionnels adéquatement pour qu'ils fassent transfert de connaissances avec un souci de qualité, là. C'est les grands défis, je vous dirais, que je vois. Ces défis demeurent pour une organisation scientifique comme la nôtre, par exemple, à l'Institut national de santé publique, de tirer son épingle du jeu, puis de jouer son rôle adéquatement en soutenant les autres acteurs, mais en n'essayant pas non plus de positionner son action puis son rôle comme comment je pourrais dire, de façon prescriptive. Je continue de penser que c'est très difficile. Des fois, on tombe dans l'autre extrême, puis on veut tellement être démocratique, puis tellement laisser la place à tous les autres groupes d'acteurs, qu'on joue plus notre rôle et que c'est comme si on était plus assez ferme sur les connaissances qu'on a, qu'on détient et le rôle que ça peut jouer dans la prise de décision. Alors, c'est un équilibre qui est toujours à redéfinir. Il y a des agendas politiques, on le sait très bien. Quand on dépose un rapport scientifique, c'est pour éclairer une décision, mais on ne peut pas se substituer à des groupes d'acteurs qui militent en faveur ou contre tel ou tel comportement, par exemple, ou telle industrie dans la société. On peut éclairer une décision. Inversement, on a à être ferme sur les conclusions qu'on peut tirer de la littérature scientifique, parce que des fois, on a des éclairages qui sont, comment je pourrais dire ça, sans être catégorique, qui sont très clairs sur les conditions dans lesquelles on peut améliorer la santé de la population. Il faut pas hésiter à le dire, puis à défendre cette position-là scientifique, mais en étant toujours au clair que c'est ça qu'on fait. C'est le plus grand enjeu.